Il est 9h41 sur France Inter, bienvenue dans l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Dans quelques minutes, Outrage et Rébellion, longue série de reportages à Aulnay-sous-Bois et Bobigny. Bonjour Camille Polony, mais j'ai envie de dire bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour. Donc vous n'avez pas 100 ans, mais on le racontera pourquoi vous n'avez pas 100 ans et pourquoi tous les témoins que vous avez rencontrés dans ces quartiers vous appellent toujours madame. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeune que vous n'en avez l'air, en tout cas, évidemment. Journaliste spécialisé police-justice, vous avez travaillé à Rue 89 et aux Inrocks pour le site lesjours.fr. Vous publiez ce long texte émaillé de témoignages. Votre sujet, les relations entre les habitants et la police, le mien ce matin. Comment les médias gagnent ou trahissent la confiance de ceux qui leur parlent et réciproquement, puisque vos témoins produisent parfois des discours prêts à l'emploi, évidemment, et désormais presque autant d'images que les chaînes de télévision.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Pour commencer l'émission, l'Instant M s'est interrogé. Pourquoi le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron a-t-il décidé de porter sur la place publique le bras de fer entamé avec deux sites d'information financés par le Kremlin, Russia Today, dit RT, et Sputnik News. Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche, joint par téléphone il y a juste quelques instants.
Ce dont il s'agit, c'est de la propagation de fausses nouvelles. C'est, j'ai envie de dire, le fait d'instiller dans notre débat des informations qui sont fausses et nuisibles à notre candidat, qui ensuite sont reprises par toute une série de blogs liés à ce qu'on appelle la fachosphère, qui sont même parfois ensuite cités par des journaux qui ne contrôlent pas assez leurs sources. Et de la sorte, on arrive à la propagation de rumeurs. Et donc moi, j'ai jugé utile, au nom des 190 000 adhérents d'En Marche, de mettre ça sur la place publique, parce que on a bien vu, par exemple, aux États-Unis, que le gouvernement américain réagit trop peu et trop tard. Et donc je n'ai pas envie que ce soit le cas ici. Je souhaite que notre gouvernement agisse fermement et à temps.
Alors évidemment, ces deux sites que l'Instant M a tenté de joindre hier ont démenti fermement vos propos. Le porte-parole du Kremlin les qualifie d'absurdes. Néanmoins, il trouve que c'est extrêmement flatteur pour ces sites. Vous pensez vraiment que les médias français et les journalistes français relaient, sans les vérifier, les informations publiées par ces sites ?
Le fait que le Kremlin, évidemment, démente me paraît dans l'ordre des choses. Vous avez d'abord eu une information disant que M. Macron était soutenu par un riche lobby gay. Phrase qui a été cautionnée d'ailleurs par un député Les Républicains, M. Duic. Ensuite, c'est repris parce que c'est une accusation lancée par un homme public français. Et cela part comme ça dans la nature sans qu'il soit possible de dire de quoi parle-t-on réellement. Il y a donc une volonté de porter atteinte.
Mais repris par qui, Richard Ferrand ? C'est important parce que les informations distillées par RT et par Sputnik News irriguent tout un tas de comptes Twitter et Facebook, c'est une chose. Qu'elles soient relayées, comme vous le dites, sans vérification par les médias et les journalistes français, c'en est une autre.
Non, mais je ne mets pas à l'accusation tous les médias français. Ce que je dis, par exemple, c'est que lorsqu'il a été dit qu'Emmanuel Macron a été hébergé à l'ambassade de France au Liban, lorsqu'il s'est déplacé au Liban, ça a fait l'objet d'une brève dans le magazine, par ailleurs, dont je ne veux pas douter, de l'honnêteté intellectuelle, les Inrecuptibles. Ensuite, M. Solaire et Mme Virginie Calmels, deux porte-parole de M. Fillon, l'ont repris sur des grandes stations de radio. Ensuite, ça a fait l'objet d'une question à l'Assemblée nationale par M. Mariani. Et la vérité, c'est quoi ? Et il y avait des dizaines de journalistes qui ont suivi ce voyage. C'est que M. Macron n'a absolument pas été hébergé, évidemment, par l'ambassade de France, qu'il a dormi à l'hôtel, là où d'ailleurs dormaient les journalistes.
Sauf que cette information sur l'hébergement d'Emmanuel Macron au Liban ne venait pas de ces sites russes, mais d'un site français qui s'appelle Le Vent se lève, et qui était d'ailleurs cité par les sites russes. Donc c'est pas une information concoctée par ces sites russes.
Quand on dit, si vous voulez, cela vient d'un site, Le Vent se lève. Du coup, dès l'instant que l'on ne vérifie pas la teneur de ce que produisent ces sites, Mais il n'en reste pas moins que l'on contribue là à la propagation de fausses nouvelles. Il y a également eu M. Assange qui s'est exprimé, laissant entendre qu'il disposait de différents mails qui pourraient mettre en cause M. Macron, etc.
Sauf que là encore, Julian Assange ne s'est pas adressé à RT ou à Sputnik News, il s'est adressé à un journal russe. RT et Sputnik News ont relayé en français cette information, on est d'accord.
Oui, mais ça montre bien qu'il relaie des informations qui ont pour objectif de laisser planer soit le soupçon, soit la menace. Oui. Et donc cela vient perturber le jugement que l'on peut se faire de l'éthique d'une personne. Et nous avons bien vu d'ailleurs aux États-Unis combien la propagation de ce type de doute, d'interrogation, a pesé sur le débat même de la campagne.
C'est une vraie question justement en termes de communication politique, Richard Ferrand, parce que on a bien vu que les porte-parole d'Hillary Clinton ont fait leur travail, les journalistes américains ont fait leur travail. Absolument. Et que rien n'y a fait. Il a été extrêmement difficile de renverser la machine face à la puissance de ce qu'on a appelé plus tard les fake news, ou en tout cas du pilonnage des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux.
Nous sommes tous perméables à des nouvelles qui sont fausses, mais que l'on lit comme ça ou que l'on entend d'une oreille distraite, mais qui petit à petit viennent peser sur notre jugement. Donc moi, ce n'est pas tant, si vous voulez, une remise en cause des pratiques journalistiques françaises que je souligne, c'est simplement une alerte. Et je souhaitais également attirer l'attention des plus hautes autorités de l'État qui ont en France la responsabilité de garantir notre vie démocratique et le bon fonctionnement de nos institutions. Donc ça me paraissait absolument nécessaire à ce stade, surtout lorsque ces propagations de fausses nouvelles sont couplées à des attaques systématiques sur notre propre système informatique. Hier, à peine paru la tribune dans le journal lemonde.fr, que nous avons eu notre système qui s'est mis en rideau pendant 9 minutes. Donc on voit bien, si vous voulez, que les nouvelles technologies aujourd'hui peuvent être mises au service, en plus de manière anonyme, contre le déroulement de nos campagnes électorales et de notre vie démocratique.
Voilà, c'était Richard Ferrand au micro de l'Instant M. Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Et mon invité ce matin, c'est donc Madame Camille Polony. Donc en fait, vous le racontez, hein, quand vous êtes dans ces quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois et que vous arrivez après les remous de l'affaire Théo, tout le monde vous donne du Madame, comme si vous aviez 100 ans.
Tout le monde m'appelle Madame.
Tout le monde vous appelle
avec beaucoup de politesse.
Voilà, vous qui êtes toute jeune et toute frêle. Cette obsession, parce que sur le site Les Jours, on parle d'obsession, c'est une forme de feuilleton journalistique, très loin. Là, on parle d'un papier de 15 000 signes pour le premier. Le deuxième est déjà paru. La suite va paraître en fin de semaine. Outrage et rébellion, donc. Vous sillonnez les quartiers nord et vous émaillez votre papier de réflexion sur la place du journaliste, sur sa fonction, sur la façon dont il est perçu et sur la façon dont vous devez ou non approcher ceux dont vous voudriez faire des témoins. Il y a des choses assez cocasses. Vous racontez par exemple que sans avoir une caméra mais simplement un carnet à la main, tout le monde vous prend pour un journaliste de BFM TV.
Bien sûr, parce que BFM TV, c'est la première présence médiatique connue, je pense, dans les quartiers populaires et notamment à l'occasion de troubles comme ceux qui se sont produits cette semaine. BFM TV, en fait, tout le monde déteste BFM, mais tout le monde regarde BFM. C'est la personnification de la télé d'aujourd'hui. Et je pense que à mon époque, on disait c'est des journalistes de TF1. C'était un peu l'évidence. C'était la télé la plus connue, la plus regardée. Aujourd'hui, c'est BFM qui est dans tous les cafés, que tous les parents des jeunes
Alors,
que j'ai pu croiser regardent.
Encore une fois, vous vieillissez. Je vous passe un extrait d'un film dont tout le monde évidemment se souvient, c'était La Haine.
Bonjour messieurs, c'est pour la télé.
C'est quoi ça?
Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose?
Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi?
Ah non, j'ai jamais dit...
Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous madame?
Ah mais rien.
Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à toirer ici.
Écoutez, on a du boulot, on est en
train. Ah ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux histoire de foutre la merde, hein, histoire de faire un scoop.
Vas-y, arrête de filmer.
Mais pour qui t'es poil, venir te péter dans mon quartier.
Je vais t'arracher, vas-y, bouge là.
Qu'est-ce que tu filmes toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute, tu viens nous embrouiller, tu sais de pute. Pas à toirer là-haut.
Évidemment, tout le monde s'en souvient, La Haine, c'était 95, c'était avant les chaînes d'info, Camille Polony. Vous dites aussi que certaines équipes de télé se promènent avec des gardes du corps et que ça institue quelque chose d'extrêmement malsain dans la façon dont c'est perçu par les habitants.
Bah, j'imagine que les télés qui viennent avec des gardes du corps dans les banlieues s'imaginent qu'elles protègent comme ça leur matériel, mm-hmm. qui est très cher, et, mm-hmm. effectivement. Et on a vu aussi que cette semaine, la semaine dernière, il y a des journalistes de télé, même des photographes qui ont eu des problèmes avec des habitants des cités, qui se sont fait voler leur matériel. Mais le fait de...
Plus un camion RTL
incendié à Bobigny.
Une voiture repeint caillassée. Ouais.
Simplement, le fait de venir, par exemple, à la marche pour Théo, la semaine dernière, à Aulnay-sous-Bois, dans une marche où il y a une marche familiale, en fait, avec des parents, des enfants, des jeunes et des vieux, et venir à cet endroit-là avec des gardes du corps, c'est vrai que ça renvoie quand même l'image à la population, une image de méfiance et l'idée que les gens qui habitent là sont des voleurs et des casseurs de caméras.
Des pilleurs, quoi, exactement. Vous dites aussi, dans ce long papier, que... il vous a fallu du temps, hein, pour vous faire admettre dans les conversations.
C'est pas encore fait,
Non, c'est pas encore fait, mais que, voilà. Et que, une consoeur du Parisien, parce que quand vous arrivez sur ce type de terrain après des événements aussi précis, aussi ponctuels, vous n'êtes pas la seule. Ça grouille de journalistes, en réalité. Donc vous dites, il y a une consoeur du Parisien qui flaire la bonne occasion et qui essaye de se greffer dans votre conversation avec des jeunes du quartier. Réponse, de vos interlocuteurs. On ne parlera pas aux gros médias. BFM Le Parisien est tout ça, restez avec les associations, madame, et je vous le dis, c'est pour vous, n'allez pas plus loin.
En fait, c'est un phénomène qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut croiser quand on va au tribunal. Il y a des avocats qui sortent de la salle d'audience et puis tout le monde converge vers eux pour les interviewer. Ça semble assez logique dans un contexte de tribunal. Mais en fait, dans une cité, s'il y a beaucoup de journalistes, ça va se passer de la même manière. C'est-à-dire que si un journaliste voit un autre journaliste en train de parler avec des habitants, alors que précisément il est en train de chercher des habitants pour son article, il va se jeter comme un moineau en fait sur la bonne occasion. C'est ce que je dis. C'est pas méchant contre la consoeur du Parisien. C'est juste que il y a un phénomène de groupe qui se crée. Sauf que pour réussir à parler avec les jeunes avec qui j'étais en train de parler à ce moment-là, c'est ce que je raconte dans le papier, il avait fallu parlementer pendant un certain temps pour leur expliquer la démarche.
Votre démarche, bien sûr, et notamment leur promettre que vous n'allez pas disparaître juste après le fait divers, juste après les émeutes.
Oui, parce que c'est l'essence du site pour lequel je travaille, c'est l'essence des jours, c'est de travailler dans la longue durée, de faire du journalisme en série et de pas faire juste un papier une fois quand il se passe quelque chose. Alors évidemment que là, ça a pété et que c'est pour ça qu'on est venu. Mm-hmm. Évidemment que le fait divers... qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé depuis, nous a amené à Aulnay-sous-Bois. C'est pour ça qu'on est là. Simplement, nous, l'engagement qu'on prend devant nos lecteurs et devant les habitants de la cité, c'est qu'en fait, on va essayer de travailler au long cours, on va essayer de revenir, on va essayer de donner un peu le point de vue de différentes personnes aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent « Oui, mais vous parlez qu'avec les jeunes, eux, ils traînent dehors. »
Non, pour le coup, non.
Voilà.
Vous parlez
et
avec
donc,
les
flics. On essaye aussi de parler avec les flics,
avec
on essaye
élus.
De parler avec les élus, et on va parler aussi avec, je sais pas, moi, des gens qui travaillent, qui ont 50 ans et qui ont envie de nous raconter des choses sur leur relation avec la police, parce qu'en fait, on s'est aperçu, et j'y suis retourné hier, que les gens qui sont plus âgés ont aussi des histoires assez intéressantes à raconter.
En tout cas, vous leur avez tous donné des surnoms, le Roi Lion, Malcolm X, etc. Ils ont des anecdotes à n'en plus finir sur leur relation avec la police. L'un vous raconte, on s'est déjà fait contrôler à l'intérieur de Paris, ça n'a rien à voir. Ici, les flics prennent le dessus physiquement, ils t'écartent les jambes à coups de matraque. Les flics, ils ont déjà vu... Pardon madame, puisqu'il y a toujours du madame, mes parties intimes. On dit que les flics des cités, ils parlent mal, mais une policière qui dit alors petit PD, c'est bien. Les rapports avec la police, c'est Paris-Marseille, personne n'aime la police. Et là, précise l'un de vos témoins, si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe, donnez-nous une GoPro. Et là, on est face à une génération qui est plus celle de 2005. On est face à une génération qui produit des images et qui s'en sert, Camille Polony.
Vous imaginez en 2005 s'il y avait eu Snapchat ? Il y aurait eu un nombre d'images phénoménales. En fait, cette année, c'est pas du tout la même situation qu'en 2005. Par contre, il y a un réflexe qui est devenu assez généralisé, c'est celui de filmer les interventions de police, d'une part, et puis ensuite de filmer les manifestations, de filmer quand on met le feu à une poubelle, pourquoi pas, de filmer. J'ai vu aussi des images sur Periscope de jeunes qui se promènent en voiture dans leur quartier quadrillé par la police pour montrer un petit peu la géographie des lieux, la manière dont un quartier peut être fermé le soir.
Alors moi, je vous propose d'écouter une vidéo qu'on a trouvée sur Periscope. C'est à Bobigny au moment où la manif dégénère. Et donc c'est un jeune qui se filme à visage découvert. D'une main, il caillasse, il casse. De l'autre, il est en train de se filmer sur les réseaux sociaux, il est en direct.
Ils sont gazés. Bon, ils sont gazés comme vous pouvez le voir.
Sacha,
vous êtes en direct.
Sacha, Sacha,
partagez, faites tourner, vous êtes 250.
Tirez vos merlons de
pute. En direction du tribunal du TGI. Bon, tout ce que je filme, Je veux que personne, hein, je vous le dis. Je veux que personne, personne les utilise sans autorisation. Vous me contactez sur Twitter, vous n'utilisez rien sans autorisation.
Et là, Camille Polony, on, voilà, quelqu'un qui maîtrise parfaitement le système. Vous n'utilisez pas les images sans autorisation, vous me contactez sur Twitter et ensuite on voit.
Donc ouais, c'est un phénomène nouveau, c'est sûr.
Totalement nouveau. Et donc c'est la preuve qu'il y a quand même une partie de toute cette population qui fabrique son discours à travers des images. Pas des mots, mais des images.
Mais je pense que c'est aussi une conséquence de la défiance généralisée qu'il peut y avoir envers la télé. C'est que si on fait ses propres images, c'est un peu la même logique que ce qu'il pouvait y avoir pendant des sommets anti-mondialisation où les indie médias sont nés, où il y avait une forme de réappropriation du discours, alors davantage à l'écrit à l'époque. Pour que ce soit pas un discours confisqué par les journalistes. Et je pense que malgré tout, alors là c'est voilà, c'est un périscope d'émeute, mais en fait c'est ça participe aussi de cette idée que les gens doivent produire eux-mêmes leurs images et qu'ils ne croient finalement qu'à ce qui est produit par des personnes, par des individus, des habitants du quartier d'à côté, plus qu'à ce qui peut être monté dans un reportage télé.
Alors, je vais laisser les auditeurs de l'Instant M découvrir les longs témoignages que vous relatez sur le site Les Jours. Il y en a quand même un qui mérite d'être souligné, celui d'un policier d'une brigade anti-criminalité. Quand vous lui demandez comment il réagirait si on lui lançait, comme on lance à beaucoup de flics en ce moment, vous allez m'enfoncer votre matraque dans le cul comme à Théo. Sa réponse, je la lis, je lui dirais ouais et alors, tu serais capable d'aimer ça ou bien vas-y, sors une capote. Un peu plus loin, il vous le confie, je connais les mœurs des mecs de banlieue, ils font les durs mais ils sont assez adeptes de s'enfiler entre eux, j'en ai déjà surpris si ça se trouve. Il s'est fait éclater la rondelle tous les week-ends par ses copains de la cité et ensuite il accuse les flics. Totalement sidérant.
C'est un témoignage qui est assez étonnant et je le souligne d'ailleurs autour de oui. citations. Je mets un peu en garde le lecteur sur ce qu'il va lire parce que c'est assez étonnant de lire ça de la part d'un policier. En même temps, je pense que c'est assez franc de sa part et il a eu l'honnêteté de me dire vraiment ce qu'il pensait. Et voilà, ce qu'il pense, c'est que alors en dehors du côté complètement caricatural de sa citation. Il n'arrive pas à croire que ses collègues puissent être mis en examen pour des faits aussi graves, c'est-à-dire viol pour l'un d'entre eux et des violences volontaires pour les autres. Il a du mal à se défaire de cet esprit de corps qui peut animer une grande partie des policiers en ce moment.
Et en même temps, il accuse son collègue, voilà, encore un mec qui va jeter le discrédit sur toute la profession.
Tout à fait, parce qu'au fond, il sait bien que si les policiers ont été mis en examen à cette heure-ci, c'est que la justice a des raisons de les soupçonner d'avoir commis des délits, voire des crimes. Donc, il peut pas non plus complètement dédier la justice. Enfin, il est évidemment qu'il travaille dans un contexte judiciaire et qu'il peut faire confiance aux magistrats. D'un autre côté, ce qu'on voit dans ce qu'il dit, qui est assez intéressant à mon avis, c'est que finalement, il dit qu'il faut répondre aux jeunes qui contrôlent sur le même ton et que si les jeunes lui parlent mal, il doit leur parler mal. Et quelque part, c'est une espèce de théorie de la stricte équivalence qui ne tient plus compte de la fonction de gardien de la paix, qui fait que normalement, il y en a un qui représente l'État et l'autre qui ne représente que lui-même. Et les deux doivent pas se comporter forcément de la même manière.
Merci Camille Polony. Outrage et rébellion, c'est donc à suivre sur le site Les Jours. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour Sandrine.
Alors, combien vous fasse ?
Comment le cinéma éduque nos enfants ? Comment il éduque leur regard et comment il transmet
des
valeurs ?
Mais quel très beau sujet !
Ben ouais, et dont vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000.
Et ce sera juste après les infos.